Joyeux Noël tout le monde! C'est bon d'être ensemble, de souligner la naissance du Seigneur. C'est un moment de joie, c'est un moment de réjouissance. Et on va tout de suite aller dans la parole de Dieu. Alors prions, puis on va plonger ensemble dans la parole. On a les enfants avec nous ce matin. Les enfants, préparez-vous, j'ai un petit quiz pour vous après la lecture de la parole. D'accord? Alors, on va fermer les yeux si vous voulez les enfants, puis on va prier les adultes aussi. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Seigneur Jésus, merci pour ta présence ici au milieu de nous, par ton Esprit Saint. Nous croyons, Seigneur, à Noël. Nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a de cela 2000 ans, un ange est apparu à des bergers pour annoncer une naissance miraculeuse, celle de Dieu le Fils qui s'est fait homme. Et Seigneur, on veut célébrer cette naissance. On veut saisir le sens de cette joie qu'il y a là à Noël, Seigneur. Viens nous rencontrer ce matin. Viens nous parler. Viens, Seigneur, nous aider à s'arrêter puis à entrer dans cette période de Noël d'une manière chrétienne, Seigneur, en focusant sur toi, en venant dans cette attitude d'adoration où on marque un temps d'arrêt. Pas un temps de course, mais un temps d'arrêt pour t'adorer, pour te célébrer. Viens, Seigneur, te faire connaître à nous ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Bonjour, bon dimanche. La lecture de ce matin est tirée du livre de Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14 dans la nouvelle édition Genève. Encore Luc, chapitre 2, les versets 8 à 14 dans la nouvelle édition de Genève. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. »
J'ai un petit quiz pour vous. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez demander à vos parents, mais d'après moi, vous allez être bon pour le trouver. Donc, où sont les enfants? Juste lever la main. Je n'ai pas dit jusqu'à 77 ans, d'accord? Merci, Michel. C'est bon, il y a plus d'enfants que ça. C'est bon, super. OK, alors, en levant la main, quelles sont les deux fêtes chrétiennes les plus connues? Qui a la réponse? C'est quoi les deux fêtes chrétiennes les plus connues? Pâques et Noël. Exactement, bravo! OK, celle-là est plus difficile. Quelle est la fête qu'un chrétien célèbre une seule fois dans sa vie? En levant la main. Quelle est la fête qu'un chrétien fête une seule fois dans sa vie? Oui! Le baptême, exactement, bravo! On a eu quelques baptêmes cette année, puis un baptême était quand même spécial, avouons-le. On n'a pas pu le web diffuser. Et puis, ça fait quelques années que je viens à l'Église de l'Espoir. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, les enfants, à venir à l'Église de l'Espoir. Et moi, je n'avais jamais vu un standing ovation. Je n'avais jamais vu ça. Vous savez, c'est quoi un standing ovation? Spontanément, les gens se lèvent. Je n'avais jamais vu ça à l'Église de l'Espoir. On est des bons baptistes, après tout. On ne fait pas ces choses-là, n'est-ce pas? Là, tout d'un coup, on a oublié qu'on était baptiste. Puis, boum, ça a explosé. Puis le lendemain, j'étais encore en train de juste de célébrer dans mon cœur ce qui s'était passé en église. Comme pasteur, il y a des moments où tu es là, on vit des choses en assemblée, puis des fois tu es là, puis tu dis merci Seigneur, tu es en train de faire quelque chose de grand, tu es en train de nous construire comme église. Et le lendemain matin, j'étais juste en train de repasser ce moment-là qu'on a vécu en église. Et puis honnêtement, dans mon cœur, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, dans le fond, c'est ça un vrai party chrétien. C'est ça le party chrétien, c'est un baptême, définitivement. Puis les chrétiens, bien personnellement, on le fête une seule fois dans notre vie, Dieu voulant, mais on en fête souvent aussi, Dieu voulant, parce qu'on assiste à cet anniversaire-là ensemble, ce moment où on passe par les eaux du baptême. Quelle est, troisième question, vous êtes prêts les enfants? Quelle est la mini-fête, j'ai dit comme ça, quelle est la mini-fête que les chrétiens fêtent le plus souvent, en levant la main? Quelle est la mini-fête que les chrétiens fêtent le plus souvent? Je sais, je suis subtil, là. Oh, oui, encore! Pardon? Le repas du Seigneur, bravo! Hey, je voulais apporter des chocolats, mais on m'a dit que ça allait être trop dérangeant. Je voulais apporter des chocolats puis les lancer aux gagnants, mais on m'a dit non. Après ça, les enfants oublient ça, là, ils vont être hype sur le chocolat. Donc, tout à l'heure, je me promenais avec mon pot de bonbons que j'ai dans mon bureau. Les enfants, vous me le rappellerez. Puis toi, tu vas en avoir au moins deux, d'accord? Donc, le repas du Seigneur. Non, mais le repas du Seigneur, sérieusement, c'est un moment commémoratif. Ici, à l'Église, on le fait une fois par mois. D'autres églises le font chaque semaine. On n'a pas de prescription claire dans la Bible sur la fréquence. Mais une fois par mois, on s'arrête. Puis c'est une fête. C'est une fête où on célèbre vraiment ce que Christ a fait pour nous. OK. Donc, on a nommé quatre fêtes. On a nommé Noël, on a nommé Pâques, on a nommé les baptêmes, on a nommé le repas du Seigneur. Voici ma question. Lesquelles de ces quatre fêtes sont prescrites dans la Bible? La Bible nous dit de les fêter. Quelqu'un qui a la réponse pour ça? Lesquelles de ces quatre fêtes? Oui, j'ai une main en arrière là-bas. C'est lesquelles de ces quatre fêtes-là qui sont prescrites dans la Bible? Tu as la réponse? Bien fort, en arrière. Pardon? Noël, non! On donne une chance à quelqu'un d'autre. Oui, ici en avant. Oui. Le repas du Seigneur et ah non, ce ne serait pas Pâques, ce serait le baptême. Ce serait le baptême. Voyez-vous, dans la Bible dit aux chrétiens, Jésus a enseigné aux chrétiens de se faire baptiser. On va souligner les baptêmes en église. Et une fois par mois, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Mais nulle part dans la Bible, il est prescrit aux chrétiens, donc il est dit aux chrétiens qu'ils doivent soit fêter Noël, soit fêter Pâques. Puis en fait, de ces deux-là, Pâques était définitivement une fête qu'on avait dans la Bible, mais c'était une fête fondamentalement que les Juifs célébraient, et nous, on le sait maintenant, ils la célébraient dans l'attente de la venue de Jésus-Christ. Donc chaque année, ils se rappelaient le moment où ils sont sortis d'Égypte. Hein? On est en train de voir ça dans Exode, le moment où ils sont sortis d'Égypte. Et de manière commémorative, à ce moment-là, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont sacrifié un agneau, ils ont fait même un festin avec la viande de l'agneau, ils ont mis du sang sur les linteaux de la porte. Et puis, Dieu leur dit, chaque année, vous allez fêter ça. Or, nous, quand Jésus meurt sur la croix puis ressuscite d'entre les morts, bien, Pâques est accompli. Pâques est absolument accompli. Et pourtant, les chrétiens, traditionnellement, ont dit, « Ouais, nous autres, on va souligner Pâques avec un sens encore plus puissant, plus riche que ce que les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus célèbrent. » Parce que nous, on a vu l'accomplissement de la Pâque. Alors, voyez-vous, il y a deux fêtes qui sont davantage des traditions. La fête de Noël, la fête de la naissance de Jésus, c'est une tradition. Vous ne trouverez pas dans la Bible qu'on doit célébrer Noël. Maintenant, c'est une super belle fête. C'est comme, ça tombe sous le sens. On va fêter la naissance de Jésus. Et c'est pour ça qu'on le souligne en Église ici. Mais la Bible ne me dit pas que je dois le faire. C'est la tradition. La tradition n'a pas l'autorité de la parole de Dieu du tout. Ce n'est pas la révélation. Donc, Dieu ne parle pas à travers la tradition. Dieu parle à travers sa parole. Et Pâques, pour les chrétiens, on aurait très bien pu arrêter complètement de fêter Pâques. Mais en même temps, Jésus qui vient, qui meurt sur la croix, qui ressuscite d'entre les morts, c'est l'accomplissement parfait de la Pâque. Donc, on décide de continuer à le célébrer. Donc, il y a deux fêtes. C'était ma question numéro 5. D'où viennent les deux autres fêtes? J'ai répondu moi-même, Noël et Pâques. Elles viennent de la tradition. Et donc, c'est bien de les souligner, mais si je ne les soulignais pas, je ne serais pas nécessairement en train de pécher ou d'aller contre la parole de Dieu, voyez-vous? Et les chrétiens ont saisi aussi que c'est une belle opportunité de s'adresser aux gens en général qui ne connaissent pas nécessairement le baptême des croyants ou le repas du Seigneur, mais connaissent Pâques et puis connaissent Noël. C'est une belle opportunité d'annoncer Jésus-Christ, évidemment. Qu'est-ce qu'on célèbre? OK, il me reste trois questions. Qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Je l'ai quasiment déjà dit, mais avec une main levée, qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Une autre main. Qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques? Oui, en arrière. Pardon? La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Exactement. Qu'est-ce qu'on célèbre à Noël? C'est comme évident. Qu'est-ce qu'on célèbre à Noël? Oui, une des trois mains. Le plus fort des trois. Oui, vas-y. Oui. La naissance de Jésus, évidemment. Et puis enfin, je vais y répondre moi-même. Pourquoi est-ce que Noël nous apporte de la joie? Parce que c'est la naissance d'un Sauveur qui nous est annoncé. Et c'est de ça dont on va parler ensemble ce matin. On va regarder notre passage, les enfants, les adultes, pour méditer ensemble sur cette joie-là que nous apporte le fait de célébrer Noël. Luc nous dit dans son évangile que dans la région où est né Jésus, il y avait des bergers, parce qu'évidemment, il y avait des bergers à peu près partout en Israël. Et Dieu a décidé que des gens très ordinaires, des bergers à l'époque, c'était super ordinaire. Si aujourd'hui, tu sais, quelqu'un te demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Tu dis « je suis berger, je m'occupe de moutons. » Ici au Québec, c'est assez extraordinaire. Mais dans le temps, c'était vraiment très ordinaire. Et donc, Dieu a décidé que des gens très ordinaires devaient faire partie de la fête de la naissance de Jésus. Et donc, il a envoyé quelqu'un les avertir. Avertir les bergers que le Sauveur des hommes est né. Puis Jésus, il n'est pas limité par nos technologies à nous. Jésus possède des technologies extraordinaires. Donc, Dieu possède des technologies extraordinaires. Donc, Dieu a envoyé un ange. Un ange, c'est un être céleste qui est souvent un messager et qui est envoyé pour rapporter un message. Dans les deux, trois dernières années, on a découvert une technologie très efficace au Québec. On appelle ça les alertes Amber. Tu sais, quand une alerte Amber, ça passe sur ton téléphone, tout le monde fait le saut. C'est très, très, très efficace. C'est un peu effrayant même. Tu sais, tu veux pas que ça arrive quand tu conduis. Puis Non. Fait que maintenant, une alerte Amber comparée à un ange qui apparaît, avec la gloire du Seigneur qui apparaît autour, tu sais, ça c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les bergers? Bien, ils réagissent de manière logique. Tu sais, tu es en train de paître tes troupeaux, je ne sais pas, sont autour du feu de camp, ils relaxent leur fin de soirée, tout d'un coup, boum, puis là, il y a un ange qui apparaît, ils sont saisis de frayeur. Ils ont peur. Imagine que ça se produirait pour toi. C'est ça qui se passerait, tu dirais, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, ils sont saisis de frayeur. Et puis, tout de suite, l'ange prend la parole et il dit au verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un ange annonce une grande joie pour tout le peuple. » Il leur dit, « Non, soyez pas effrayés. Je sais que c'est impressionnant. Je fais cet effet-là quand j'apparais de temps en temps. Mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle. » Il y a un Sauveur qui est envoyé pour les hommes. Ça va être une source de grande joie. Et si vous retenez une chose, ce matin, c'est que l'émotion qui devrait être associée à Noël, c'est la joie. C'est ça l'émotion qui devrait être associée à Noël. C'est pas l'anxiété ou le stress de savoir si je vais avoir le temps d'acheter tous les cadeaux, de me dire « Ah non, je vais voir ma tante Bertha pendant le temps des fêtes puis j'ai pas réglé une chicane avec elle » ou « J'espère que je vais pas pogner la COVID puis je vais pas être obligé de rester chez nous. » Non, l'émotion qui devrait être associée avec Noël, c'est la joie. C'est la joie parce que c'est un moment de joie. Et c'est ça qui devrait remplir nos cœurs constamment. Noël, c'est l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, pour tout le monde. Et donc, je ne sais pas pour toi si Noël, tu y associes une émotion de joie. On a toutes des histoires différentes. Et ma prière ce matin, c'est qu'en allant dans la parole de Dieu, à quelque part, Dieu vienne régler quelque chose dans ton cœur pour que vraiment tu puisses associer Noël avec la joie, parce que le véritable sens de Noël, c'est une source de joie extraordinaire. Parce que c'est une annonce extraordinaire. Ce n'est pas une raison de tristesse. Donc, les bergers sont là, puis il y a un ange qui apparaît, puis là, ils sont effrayés. Puis l'ange dit, non. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. C'est le temps d'être dans la joie. Et cette joie-là que nous apporte la naissance du Sauveur est un remède extraordinaire pour une société plus anxieuse que jamais. La vérité, c'est ça. C'est que, à bien des égards, la qualité de vie en Occident atteint des sommets qu'on n'a jamais connus dans l'histoire de l'humanité. Puis pourtant, on est une des sociétés les plus anxieuses qui a jamais vécu. Et Noël est un remède extraordinaire. Lorsque je comprends ce que c'est Noël, c'est un remède extraordinaire à cette anxiété-là qu'on a tendance à vivre dans notre société. On lit dans Matthieu 1, verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Vois-tu, Jésus qui naît, Jésus qui vient au monde, c'est Dieu le Fils qui vient parmi les hommes. C'est Dieu qui vient parmi nous. Et ça, c'est une source de joie, pas une source d'anxiété. C'est Dieu qui vient vers les hommes pour nous offrir l'opportunité d'être près de lui. On lit dans Luc, chapitre 2, verset 12 à 14, « Et voici à quel signe vous reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Cette annonce-là est une source de paix, de repos. Saisir Noël cette année et vivre Noël comme ça avait été présenté aux bergers à l'époque, c'est une source de joie et de paix. Et c'est pour ça que je vous dis que Noël, c'est un remède extraordinaire à l'anxiété qu'on peut vivre. Parce qu'il y a plein de causes pour être anxieux. Et peut-être juste pour se placer dans le contexte, se placer à l'époque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'époque, les bergers qui sont là, qui reçoivent ce message, vivent en Israël, et Israël est sous l'Empire romain. Donc, c'est littéralement un pays qui est occupé. Ils sont sous occupation romaine. Et la loi romaine est extrêmement dure. Ils sont traités, dans un sens, comme des esclaves pour l'Empire. Et ils doivent collaborer avec l'Empire. Ils doivent servir l'Empire. Ce n'est pas un moment de joie dans l'histoire d'Israël. C'est un moment d'anxiété dans l'histoire d'Israël. Et être berger, ce n'était pas le revenu minimum garanti, vous comprenez? C'était « J'espère que tout va bien se passer. On va surveiller cette nuit parce que notre steak pourrait partir à courir s'il y a un loup qui part après. » Vous comprenez? Notre source de revenus, notre nourriture. Et l'ange vient puis il leur dit « Moi, je vous apporte la joie. Je vous apporte la joie en ce moment. Je viens vous apporter la paix, du réconfort. Parce qu'il y a un sauveur qui est envoyé pour les hommes. » Si tu saisis Noël véritablement, Noël va être un remède pour toutes les formes d'anxiété. Et je ne suis pas en train là, de faire une critique contre la science moderne ou quoi que ce soit, ou la médication. Ou... Tout ce que je suis en train de dire, c'est que Noël est un remède à toutes les formes d'anxiété. Et comme on l'a déjà partagé, même ici, notre famille vous a déjà partagé même un dimanche matin, notre expérience à nous avec la dépression. Donc, je ne suis pas en train de condamner ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que fondamentalement, quelle que soit la cause de ton anxiété, une vraie compréhension de Noël fait partie de la solution, je te l'assure, parce que c'est la venue d'un sauveur dans ce monde. Alors, je ne sais pas où est-ce que tu es actuellement. Si tu vis de l'anxiété, si tu vis du stress, on nous dit que les jeunes générations sont plus anxieuses que jamais. Avec des grandes questions, on parle d'éco-anxiété maintenant. Moi, je te dis que Noël, si vraiment tu saisis ce que c'est, fait partie du remède à ton anxiété. Et on va le voir un petit peu ensemble ce matin. Recevoir dans son cœur et dans son âme ce que Dieu nous a donné à Noël, c'est le remède à l'anxiété de l'humanité. Et Noël, c'est l'occasion de te recentrer sur cette bonne nouvelle-là pour retrouver de la joie. Je sais qu'on arrive tous à Noël souvent en courant, puis là, il y a des repas, il y a des moments, il y a un paquet d'affaires, c'est la course folle. Mais vraiment, Noël, c'est l'occasion de te recentrer sur la venue de Jésus-Christ en ce monde. Jésus-Christ, le sauveur des hommes. Jésus-Christ qui offre sa paix aux hommes de bonne volonté, à ceux qui croient en lui. Et donc, je ne sais pas où est-ce que tu es ce matin, puis cette semaine, est-ce que c'était le stress à la maison? Est-ce que la tension a grimpé parce que tout le monde est stressé, tout le monde est tendu? Est-ce que ton cœur est retiré, puis tu as tendance à t'isoler dans ton cœur parce que tu es habité d'anxiété? Pour toutes sortes de raisons. Noël, c'est l'occasion de se recentrer et de revenir sur la personne de Christ, sur sa venue dans ce monde. Noël, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle qui annonce une meilleure nouvelle encore. Parce qu'un sauveur nous est né à Noël et un sauveur s'est donné à Pâques. Et donc, revenir au sens de Noël, c'est revenir au véritable sens de cette paix-là qui nous est offerte avec Dieu. La joie d'un sauveur pour tous les hommes. Un sauveur parce qu'on n'est pas capable de sauver nous-mêmes. Versets 10 et 11. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Voyez-vous, les Juifs de l'époque attendaient un Messie. Puis en fait, beaucoup de Juifs encore aujourd'hui attendent un Messie parce qu'ils ont manqué lorsque Jésus est venu. Ils n'ont pas reconnu en lui le Messie. Mais les Juifs de l'époque attendaient un Messie. Un Messie, c'est quoi? C'est un sauveur. Et dans leur vision des choses, ils sont sous occupation romaine. Donc le jour où le Messie va venir, ça va être la libération. Puis en fait, même plusieurs ont commencé à le croire en voyant Jésus enseigner comme personne d'autre avait enseigné, en voyant Jésus faire des miracles, en voyant Jésus enseigner avec une autorité divine. Puis maintenant, monter à Jérusalem au moment de la Pâque, ils attendaient ça, ils étaient en train de célébrer « Hosanna à celui qui vient au nom du Très-Haut ». Ils s'attendaient à ce qu'il soit intronisé, à ce qu'il les libère des Romains. Ils attendaient cette libération. Ils n'avaient pas compris que Jésus venait les libérer de quelque chose de beaucoup plus profond que tout ce que les hommes pourraient faire, et c'est le péché qui nous habite. C'est notre nature pécheresse, notre nature déchue. Ce qui fait que fondamentalement, malgré le fait que tu peux aimer Dieu d'une part, tu es incapable de vraiment être saint comme Dieu. Vraiment être à son image. Que même lorsque tu mets la meilleure des bonnes volontés, à tout moment donné, tu vas faire quelque chose, je m'excuse, je vais être vulgaire, mais tu vas faire quelque chose de chien, de cheap. Puis là, tu vas réaliser après, tu vas dire, je suis même minable des fois. Il me semble que je voulais faire quelque chose de bien, puis là, j'étais égoïste. Voyez-vous, ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. Puis lorsque tu commences à voir cette réalité-là dans ta vie, mais tu réalises que c'est un peu partout. Malgré toutes nos bonnes volontés, de bien des manières, le péché est présent. Puis là, quand tu commences à lire la Bible puis à découvrir qui est Dieu, tu dis « My, c'est pire que je pensais ». Puis là, tu continues les Écritures puis tu dis « Boy, c'est un cas désespéré. Comment est-ce que je vais faire pour me sauver? » Et ce que Dieu est en train de dire ici, c'est qu'on est incapable de se sauver nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il a envoyé un sauveur. De la même manière que les Juifs à l'époque n'auraient pas pu se débarrasser eux-mêmes des Romains, de manière beaucoup plus profonde, on est occupé, chacun d'entre nous, par le péché. Tu sais, à la maison, là, tu décides que là, okay, oui, c'est vrai, j'ai été poche avec mon frère, j'ai été poche avec ma sœur, à l'école, ça n'a pas bien été, j'ai manqué de respect à mes parents, je vais faire mieux. Mais si tu veux être honnête, cette semaine, il y a un moment où tu vas te décevoir toi-même. Tu vas dire, pourquoi je ne réussis pas à bien faire? Je voulais bien faire, c'est vrai que j'ai été égoïste. Mais c'est qu'on est occupé à l'intérieur de nous par cette nature pécheresse qui fait que malgré toutes nos bonnes intentions, on finit par faire le mal. Et nous avons besoin d'un sauveur qui est extérieur. Et c'est pour ça que c'était une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient parmi les hommes. Emmanuel vient parmi nous et il envoie il vient comme un sauveur pour nous sauver. Jésus, le sauveur des hommes. On lit dans Jean 3, 16, la majorité d'entre vous connaissez ce verset-là par cœur, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça le vrai sens de Noël. C'est pour ça que je dis que la bonne nouvelle que l'ange annonce au berger en disant « un sauveur est né », cette bonne nouvelle-là cache une plus grande bonne nouvelle, c'est que ce sauveur-là allait donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Et donc le Père donne le Fils et le Fils donne sa vie afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés et qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Est-ce que tu crois à Noël? Tu sais, une grande question des fois qu'on discute avec les enfants. Est-ce que tu crois à ça à Noël? Puis là, j'essayais des affaires avec Santa Claus, le Père Noël. Je ne m'en vais pas là. Vous réglerez ça à la maison. Mais moi, je crois à Noël. Moi, je crois profondément à Noël. Je crois que Dieu a envoyé son Fils, qui s'est fait homme. Je crois que ce ne sont pas des contes ou des fables pour les personnes âgées d'une autre époque qui étaient moins instruites. Je crois que l'humanité aujourd'hui a profondément besoin de croire, a profondément besoin de ce remède-là. Je crois que nous ne sommes pas capables de nous sauver par nous-mêmes. Même si c'est bien de prendre des choses en main dans notre vie, c'est bien de prendre à cœur l'environnement, de prendre à cœur ma famille, de prendre à cœur ma santé, de donner le meilleur de moi-même, mais à la fin de la journée, je ne peux pas me sauver moi-même et l'humanité ne pourra pas sauver elle-même. Et ce n'est pas quelque chose de triste. Ça le serait s'il n'y avait pas Noël. Mais il y a Noël. Jésus-Christ est venu sur la terre. Et je crois profondément à Noël. Je ne sais pas si toi, tu crois à Noël. Puis j'ai le goût de te dire que tu sois chrétien ou non, ça se peut que tu ne crois pas à Noël. Dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui était un homme d'une très, très, très grande foi. Un homme qui croyait profondément en Dieu. Qui a vécu une épreuve terrible dans sa vie. En fait, une séquence d'épreuves terribles dans sa vie qui l'ont amené à douter de la justice et de la bonté de Dieu. Il s'appelait Job. Job était un croyant. J'oserais croire même qu'il était un meilleur croyant que chacun d'entre nous. Mais à un certain moment donné, Dieu a décidé de permettre dans sa vie une séquence d'épreuves qui fait qu'il y a de l'amertume qui s'est installée dans son âme. Il a commencé à entrer dans un procès avec Dieu. Il a commencé à dire, « Dieu, il me semblait que tu étais bon. Il me semblait que tu étais juste. J'ai besoin d'explications. » Puis Dieu s'est fait connaître à lui. Et son cœur a été réconforté, il a trouvé la paix avec Dieu. C'est pour ça que je dis que tu sois chrétien ou non, ça se peut qu'en ce moment, tu ne crois pas à Noël. Parce qu'à quelque part dans ton cœur, il y a eu des épreuves, il y a eu des situations. Puis oui, tu es chrétien, puis oui, tu crois en Dieu, mais boy que c'est pas concret au quotidien, puis tu es habité d'un paquet de craintes, puis d'un paquet d'anxiété, puis peut-être d'amertume. Puis cette année à Noël, ce que tu as besoin de faire, c'est de te recentrer. Pour revenir avec une grande simplicité de cœur, puis dire oui, la vie n'est pas facile, oui, c'est difficile, mais je crois en toi, Seigneur Jésus. Amen. Peut-être que c'est ça que tu as besoin. Peut-être que tu as besoin de recommencer à croire à Noël. Ou peut-être que tu as besoin de commencer à croire à Noël. Vous savez, on a tendance à aller dans les évangiles pour voir l'histoire de la naissance de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, on va là, puis là, on étudie, OK, l'annonce, la venue, tout ça. Un bon livre pour compléter, pour bien comprendre Noël, c'est l'Apocalypse. Je vais vous surprendre. C'est l'Apocalypse. C'est pas comme le livre qu'on lit chaque année à Noël. Mais pourtant, moi, je vous dis qu'il y a vraiment une suite, une continuité. Parce que voyez-vous cette joie qui est annoncée au berger lorsque l'ange dit « ça va être une source de grande joie pour tout le peuple ». Ça dépasse le peuple d'Israël. C'est une joie qui est exponentielle et qui va se multiplier à toutes les nations de la terre. Qui va aller beaucoup plus grand que ça. Dans Luc 2, on voit un ange qui apparaît au berger. Ensuite, il semble y avoir une légion d'anges qui joignent leur voix. Mais il y a un ange qui est là, qui apparaît au berger et qui leur annonce ça. Et lorsque j'arrive dans Apocalypse 7, on voit une myriade d'anges qui est accompagnée d'un nombre innombrable d'êtres humains qui célèbrent l'agneau, qui célèbrent Jésus-Christ. Et je vais juste vous lire deux versets dans Apocalypse 7, versets 11 et 12. Et tous les anges de l'univers, c'est pas? Tous les anges, ça fait beaucoup. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, Amen ». Louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à Dieu au siècle des siècles. Versets 9 et 10. Et après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, c'est Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ça me chicotait quand j'étais en train d'étudier le passage dans Luc 2. L'ange apparaît puis dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui va être une source de grande joie pour tout le peuple. » C'est le tout le peuple qui m'a chicoté. C'est là que je me disais, « OK, correct, pas au moment de la naissance. » C'est très secret, je veux dire, il y a quelques personnes qui sont dans la joie au moment de la naissance. Après ça, dans le ministère de Jésus, oui, il y a des moments où Jésus était comme reconnu partout, mais tout le peuple, je veux dire, tu avais quand même une bonne faction qui fomentait, qui planifiait comment on va faire pour l'éliminer. Il ne devait pas être dans une très grande joie. Puis finalement, lorsqu'on arrive à la crucifixion, je veux dire, c'est un party macabre, là. Vous comprenez? Je veux dire, tout le monde joint leur voix à « crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». À quel moment tout le peuple est dans la joie? Et ce qu'on réalise en étudiant la parole de Dieu, c'est que de tout temps, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, même en Israël, il y a Israël et il y a Israël. Parce qu'il ne s'agit pas d'être descendant par le sang d'Abraham, il faut être descendant par la foi d'Abraham. Et donc, il faut avoir la même foi, croire comme Abraham. Lorsqu'on arrive à la fin de l'Évangile de Matthieu, Jésus va dire à ses disciples après sa résurrection, il va dire maintenant, « Allez de par le monde. Faites de toutes les nations des disciples. » Et voilà tout le peuple qui va se réjouir. Et lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, on trouve des gens tellement nombreux que c'était innombrable. On n'arrivait pas à les compter tant la multitude était vaste. Pendant les prochaines semaines, il va y avoir des millions et des millions et des millions de chrétiens qui vont célébrer la naissance de Jésus-Christ partout sur la terre. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et ça se passe comme ça depuis 2000 ans. La joie que procure la naissance de Jésus-Christ, puis sa mort et sa résurrection, apporte une joie partout sur la terre qui est inégalée à travers l'histoire de l'humanité. Parce que bien des gens croient en Dieu, mais seuls les chrétiens ont connu un Dieu qui nous aimait tellement qu'il donnerait sa vie pour nous. Est-ce que vous réalisez ça? On estime actuellement à 100 millions de chrétiens en Chine. La vaste majorité de ces chrétiens-là sont dans des églises underground, non déclarées, parce que si tu veux être déclaré comme chrétien, il faut que tu aies l'église de l'État. Les prédicateurs doivent soumettre leur prédication, ça doit être vérifié par quelqu'un qui fait partie du Parti communiste. Et donc, la majorité des chrétiens en Chine sont dans des églises illégales. Et on a toutes sortes de moyens d'estimer leur nombre. Entre autres, une des meilleures ressources pour avoir de l'information puis de la théologie, c'est le site de TGC, la Coalition pour l'Évangile. Mais vous savez quoi? L'endroit dans le monde où il y a le plus de téléchargements à partir du site de TGC, c'est en Chine. Puis le site est interdit. Fait que les chrétiens trouvent le moyen de se brancher et de télécharger de l'information. Depuis des milliers d'années maintenant, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ que nous célébrons à Noël est une source de joie inégalée dans l'histoire de l'humanité. Et lorsque l'ange annonce au berger que tout le peuple va être dans la joie, je crois qu'il est en train de faire référence à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Et donc, ce que je vous dis ce matin, ce que Dieu vous dit ce matin, c'est que Noël, c'est l'occasion de se recentrer sur Dieu. C'est l'occasion de prendre toutes tes anxiétés, toutes tes craintes, toutes tes peurs, tous tes stress, toutes tes frustrations, toutes tes amertumes. Non pas de les mépriser comme si c'était sans importance, mais de venir y jeter un regard nouveau à la lumière de ce que Jésus-Christ a fait en venant dans ce monde. Et de dire en quoi est-ce que la venue d'un Sauveur, Jésus-Christ dans ce monde, vient changer ma perspective sur la mort, sur la vie, sur les stress économiques, sur l'environnement, sur la planète. Et ce n'est pas que ces questions-là ne sont pas importantes. Un chrétien qui est responsable va s'investir, va prendre des choses en main. Mais à la fin de la journée, je regarde toutes ces choses-là, ma vie de couple, ma famille, mes amitiés, ma santé, mon travail, mon avenir, mon passé, l'état de la planète, je regarde tout ça et je mets ça en perspective de Noël, de la venue dans ce monde de Jésus-Christ, le Sauveur des hommes. Et Noël, c'est l'opportunité de se recentrer comme ça. C'est intéressant, les anges, ce sont des messagers. Ce matin-là, quand les bergers se sont levés, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à recevoir un message comme ça. Ils s'en vont dans les champs, puis ils s'en vont travailler, puis ça arrive du champ gauche. Non? OK. Ça arrive du champ gauche, il y a un ange qui apparaît, puis qui les surprend avec une extraordinaire bonne nouvelle. Une très, très bonne nouvelle. Et vous savez quoi? Ceux qui ont compris le sens de Noël et qui sont habités par la joie, cette même joie qui est annoncée par cet ange, nous sommes à notre tour des messagers. Et on est appelés à surprendre les gens avec notre joie à Noël, pour pouvoir donner explication de l'espérance qui est en nous. Et il y a des gens autour de nous qui doivent être surpris de cette joie-là. Et c'est pourquoi je vous dis, annoncez la venue du Sauveur premièrement par votre joie à Noël. Et je suis conscient qu'il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on n'est pas là, on n'est pas dans la joie. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit « Soyez toujours joyeux ». Mais on a l'occasion de se recentrer si on a perdu notre sang avec la naissance de Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La chorale va venir s'installer. Puis on va aller ensemble dans la joie ce matin de cette naissance de Jésus-Christ. Et peut-être que c'est l'occasion pour toi de découvrir cette année pour de vrai le sens de Noël. Peut-être que tu as été invité à venir ici, puis Noël pour toi c'est des parties, quelques excès, le régime qui va suivre, les résolutions du nouvel an. C'est tellement plus que ça, Noël. Et c'est vrai, Noël, c'est pas une fête qui nous est prescrite dans la Bible, mais c'est tellement une belle tradition que les chrétiens se sont donnés pour souligner un des moments les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Je dirais le deuxième moment en importance après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si tu es habité d'anxiété, de stress, moi je t'invite cette année à Noël, viens te recentrer sur la naissance de Jésus. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer, Seigneur, joindre nos voix par les chants qu'on va chanter avec la chorale, Seigneur, qu'on va entendre la chorale chanter, joindre nos cœurs à ces myriades d'anges qui te célèbrent dans les cieux, qui sont autour du trône et de l'agneau, autour du trône de Dieu et de l'agneau, et qui te célèbrent, Seigneur. Seigneur, on veut te confesser que souvent nous vivons comme si tu n'étais pas là, et on devient habité de toutes sortes de stress. Notre perspective n'est pas celle d'un cœur rempli de joie. Et souvent, nos émotions, c'est notre plus grand indicateur de tout ça. Seigneur, je te prie pour que l'Église de l'espoir soit habitée par cet espoir qu'on célèbre à Noël, Seigneur. Je te prie, Père, pour que nos enfants découvrent vraiment, vraiment le sens de Noël. parce qu'il n'y a pas d'âge pour croire en toi, Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir qui tu es, Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour que cette année, nous soyons une source de joie pour les gens autour de nous. Quelles que soient nos circonstances, que ce soit un moment extrêmement lourd et difficile de nos vies ou un moment de grande réjouissance, en même temps qu'en regardant à toi, Seigneur, nos cœurs soient habités de joie. Seigneur Jésus, viens et sois glorifié ce matin. C'est en ton précieux nom que nous prions. Amen.
Amen. Amen.